développer un peu, de façon dont l'acceptabilité sociale a été concrétisée pour les PNR en Suisse, parce que créer 14 PNR depuis 2006, c'est extrêmement rapide. Alors, est-ce qu'il y a une recette en Suisse qui n'existerait pas en France, ou en milieu ou en France, il faut à minima 10 ans pour créer un PNR.
C'est vrai.
Peut-être
qu'on prend des questions très théoriques. C'est que on voit bien la discussion que vous avez donnée. Comment vous positionnez ce qu'on appelle les naturalistes défensifs? Pour moi, un naturaliste purement défensif, c'est-à-dire que la nature existe, elle a une stabilité. Ça, en bon français, ça s'appelle du créationnisme. C'est vraiment une vision créationniste. Alors, la nature a été créée, elle bouge pas. C'est ça que j'aurais aimé savoir, comment, dans les débats que vous avez, quelle est cette fameuse posture. Parce que c'est une posture qui veut dire qu'il y a une nature stable et inchangée. Bon, ça n'existe plus, ça. Hein. Ça fait longtemps que...
Ben Hittebert, je suis enseignant plutôt en projet architectural et urbain. Je suis d'origine suisse. Et donc, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et donc, il y a une chose qui m'est trop absent, et je voudrais maintenant poser la question, c'est qu'en même temps qu'il y a ces dernières évolutions, en Suisse s'élabore un projet de territoire. Je le dis d'autant plus que c'est la première fois qu'en fait, ce pays fédéraliste s'est donné les moyens pour construire une stratégie comment développer le territoire à l'échelle nationale. Et donc, j'ai des questions plus précises. Comment, à l'intérieur de ce projet de territoire, apparaissent d'un côté des questions de développement durable, comment elles sont abordées, et de l'autre côté, comment apparaît la nature, sachant que pour les Suisses, la nature est une entité absolument multifacette. Hein, je donne juste un exemple. C'est que les Suisses, ils savent très bien, ils n'ont pas de tour Eiffel, mais ils ont le Cervin, pour ceux qui peuvent grimper, et puis toute une série d'autres petites montagnes où on peut monter en téléphérique. Donc ils ont un rapport très très ambivalent, mais les mêmes personnes peuvent vous parler de la nature de façon extrêmement multifacette. Voilà, donc comment est abordée la nature dans le contexte, et en particulier par l'entrée des parcs, c'est très intéressant, dans le cadre du projet de territoire suisse.
Je voulais savoir si vous êtes intéressé en fait à l'émergence des parcs naturels urbains en France, parce que maintenant il y en a, et si vous avez analysé la conception de la nature qui était sous-jacente. Par contre, je ne sais pas s'ils ont une reconnaissance officielle ou pas.
Non,
c'est une appellation ad hoc.
Hein. Oui, exactement. Ouais.
Alors moi j'avais une question sur la plage, la dernière plage, et ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure sur comment on arrive à... Enfin, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à comprendre comment se construit, et là en l'occurrence se construisent différents modèles théoriques, scientifiques entre guillemets, mais concrets, donc adaptés sur un objet. Comment s'articule l'acceptabilité sociale qui va être mise en œuvre à partir de ces constructions différentes? Et donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, donc on pourrait imaginer trois types de constructions de l'acceptabilité sociale de ce projet-là, différentes en fonction donc des conceptions que vous avez abordées, les trois conceptions. Et puis l'autre question, c'est que... Les tableaux ont un avantage, c'est qu'ils forcent, ils nous obligent à forcer un petit peu le trait.
Oui.
Et là, en l'occurrence, on aurait pu mettre développement durable peut-être dans la deuxième ligne, parce que le développement durable, justement, procède comme ça la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est à la fois une intervention et aussi une ambition d'amélioration. Et si j'avais placé le développement durable, je l'aurais peut-être placé plus... au milieu dans la conception intégrée. Donc j'aimerais avoir un petit peu votre point de vue là-dessus par rapport à votre tableau.
Ok, merci pour ces questions. Je vais faire comme Jacques, je vais partir par la fin. Vous avez parfaitement raison. J'ai essayer de faire passer. Le développement durable irait très bien dans la conception intégrée. Et j'avais pas vraiment de théorie finalement pour la conception utilitariste, on peut le dire comme ça. Finalement, même si voilà, on peut faire entrer le développement durable aussi dedans, mais vous avez parfaitement raison.
C'était de l'aménagement classique, enfin, je sais pas.
Ouais.
Oui, mais ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que c'est tous des naturalistes. Enfin, il y a vraiment eu ce débat. C'est tous des biologistes, hein, et tous des biologistes avaient trois positions comme ça différentes. Et le dernier est un élu. Il y a un élu vert et qui prenait donc il a dit à cet endroit-là on fait un gazon et j'assume le gazon. On va pas faire une prairie sèche quoi ça. Les Genevois ont besoin d'un gazon à cet endroit-là. Il n'y a pas de plage à Genève. On fait un gazon. Puis il y avait ce côté totalement assumé de remblayer le lac en disant bah voilà on a besoin de ça et à cet endroit-là le lac on peut le remblayer. Voilà. Et c'est de l'aménagement du territoire, mais voilà, la particularité, c'est que c'est quelqu'un qui...
naturaliste,
voilà. Par rapport à l'acceptabilité, alors je ne vais pas pouvoir développer trop non plus, mais finalement, ça c'est le compromis, donc c'est ça le projet finalement. Donc le projet présenté au départ, c'est celui-là. Donc un vaste remblaiement sur le lac avec un gazon le VVF qui fait recours et qui gagne son recours contre ce projet. Et à partir de là, vaste discussion, qu'est-ce qu'on fait à la place pour rendre le projet plus acceptable, si j'ose utiliser le terme. Et ben voilà, il y a eu ces deux positions-là, finalement, qui sont arrivées. Première, cette position-là, qui était celle du VVF au départ, après, ils ont changé, qui était de dire, pour minimiser au maximum les impacts, on fait un ponton, donc il n'y a aucun remblaiement, on fait juste au-dessus du lac. Suite à discussions, notamment liées au fait qu'il y a eu de multiples expertises en fait, sur les qualités du lac à cet endroit-là. Et c'est tout à fait intéressant, parce que là aussi, il y a eu des avis contradictoires. Il y en a qui ont dit c'est pas les Maldives ici, hein. Il n'y a rien de super intéressant, il n'y a pas d'espèces rares, c'est pas par rapport à d'autres rives du lac, il n'y a rien d'intéressant. Et d'autres qui ont dit non, on ne peut pas toucher à cet endroit-là parce que ça fera un précédent et puis parce que quand même il y a des choses intéressantes à cet endroit-là. Et finalement, le résultat, ça a été ça, avec une proposition où il y a un espace de plage, donc où les gens peuvent mettre leurs serviettes, un espace public créé, mais aussi cette idée de lagune. Ah oui, alors, grève, parce que grève, ce sont des cailloux plutôt que du sable, et avec les cailloux, l'hiver, enfin les oiseaux migrateurs qui viennent sur les bords du lac peuvent faire leur nid, enfin, peuvent nicher, il y a la flore qui peut se développer, et puis lagune, parce que c'est un endroit qui est réputé, enfin ils l'ont présenté comme ça, comme permettant d'améliorer l'écosystème lacustre. Et le projet est passé comme ça et a été vendu de cette manière-là, avec ce projet de plage. Vous aurez un espace public à Genève et vous aurez aussi, entre guillemets, une nature améliorée. Les gens qui ont fait ça sont aussi ceux, enfin, qui ont proposé cette version-là, ce sont aussi ceux qui font les projets de renaturation des cours d'eau. Qui sont vraiment dans ce paradigme, dans cette idée que en décanalisant les cours d'eau, on fait des aménagements, donc on rend le fleuve à son cours naturel, mais en même temps on fait des aménagements pour la population, ce qui permet d'être win-win. Là, je présentais le win-win écologie là au tout début, c'est ça en fait, c'est l'idée que ça va être bénéfique aussi bien pour la nature et l'homme.
Donc du coup, pour répondre à la question, il me semble que là, on n'est pas dans un paradigme de l'acceptabilité, puisqu'en fait, on est dans un système multi-actoriel. Chacun
à sa définition de ce qui est désirable. Donc, alors que l'acceptabilité, il me semble, dans son principe, c'est que l'objectif cible, il est défini a priori, et puis on va faire des compromis avec cet objectif cible, compte tenu des résistances éventuelles de la population qui est elle-même vue comme univoque. Donc il me semble que cet exemple, qui me semble excellent, contribue à ruiner le concept d'acceptabilité. Je ne veux pas t'imposer mon interprétation, mais il me semble que c'est mon interprétation de ton interprétation. Il n'y a pas eu finalement une chose préalable qui a été imposée, y compris avec des compromis, puisque finalement ils ont dépassé le conflit en inventant le terme intermédiaire, enfin la ligne intermédiaire, qui satisfait tout le monde à certains égards mieux que certains éléments des projets opposés, puisque par exemple la lagune, c'est encore mieux pour les partisans de l'environnement.
Ce qui peut être dit aussi, c'est que là on est bien dans une construction scientifique entre naturalistes, et finalement le produit de ce compromis est un compromis qui relève justement d'une conception naturaliste, c'est-à-dire de maîtrise de la nature. C'est pas du transhumanisme, c'est du transnaturalisme, quoi, en gros. Hein. C'est-à-dire que finalement, peut-être que le produit d'un compromis qui n'aurait pas été un compromis d'une discussion, d'un débat scientifique entre naturalistes, aurait été d'une toute autre nature. Et donc, peut-être que aussi, à partir du moment où ce débat est posé sur la place publique, il est aussi posé sur la place publique avec ces arguments-là de naturalistes. Et donc, c'est peut-être comme ça qu'on peut réintroduire l'acceptabilité sociale d'un projet que tu avais fait sortir par la porte, que je remets par la fenêtre.
Je continue pas parce que, il faudrait rentrer dans le détail du projet en fait, et des discussions pour être vraiment précis. Donc on pourra y revenir si vous voulez. Projet de territoire. En termes de politique publique, c'est vrai que la politique des parcs, c'est politique de l'environnement, protection de la nature, alors que projet de territoire, c'est du ressort de l'aménagement du territoire. Donc on a quand même affaire à deux politiques publiques assez différentes, et je dirais qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et c'est pas rien quand l'Office fédéral de l'environnement dit « ça c'est du domaine de l'aménagement du territoire ». Parce que l'aménagement du territoire, il a beaucoup moins de moyens, dans une certaine mesure, que l'environnement. Ça veut dire, débrouillez-vous en fait avec les moyens que vous avez dans l'aménagement du territoire, pour poser les choses. Dans le projet, alors d'abord, c'est pas le premier projet à l'échelle de la Suisse, projet de territoire. Le premier, il a été développé. Par Armin Meili dans les années 40. Puis à la suite de ça, il y a eu tout un tas de projets pour l'ensemble du territoire suisse dans les années 70, comme on dit en France, avec le CK 73. Il y a eu les grandes lignes de l'organisation du territoire dans les années 90. Et puis il y a ce projet de territoire. Et alors, par rapport au développement durable, il est central. Enfin, c'est tout le projet de territoire est justifié par l'idée que la Suisse doit aller vers un développement durable. Pour dire que, à ma connaissance, la nature est très peu traitée en fait dans le projet de territoire qui est plutôt de compétence de l'Office fédéral de l'environnement. Par contre, c'est la question de l'environnement qui est abordée et via des questions de mobilité, et en particulier l'objectif phare qui est de lier urbanisation et transport, en fait, et faire en sorte qu'on développe l'urbanisation et qu'on la concentre aux abords des nœuds de transport public. Enfin, ça, c'est vraiment des éléments. Je développe plus, mais je serais ravie de discuter. J'ai noté défense. La posture défensive.
Le créationniste.
Oui, c'est l'écologie de l'équilibre, c'est le terme qui m'a.
Oui, alors l'écologie de l'équilibre, c'est vraiment une théorie écologique.
C'est une théorie non scientifique, c'est religieux.
Non, je veux dire, ça a marqué son époque aussi. C'est l'idée de stabilité, de climax, et que voilà, la nature, dans la nature, trouve un moment d'équilibre. On la retrouve dans cette posture-là. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que, je veux dire, on parle du lac, il y a des enrochements. Les biologistes ici sont conscients que cet écosystème a déjà été modifié. Mais la posture défensive, c'est de dire que finalement, on ne va pas plus loin.
Stop.
Stop, quoi. On a déjà fait suffisamment. Voilà, ça... ça refonctionne de cette manière-là, il ne faut pas en rajouter, c'est dans ce sens-là en fait. Donc il ne retourne pas à une nature comme si la nature de la rade à Genève pouvait être une nature originelle. Enfin, je veux dire, c'est éminemment modifié à cet endroit-là.
Mais enfin, quand même, il y a l'idée que ça serait encore mieux, c'est-à-dire que c'est parce que ce n'est pas possible, mais disons, il y a quand même l'idée qu'une nature intouchée.
Ah, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est mon...
Et meilleur, mais à la fois est stable, effectivement.
Oui, ah oui, on est là, on est, c'est quand même la meilleure de chez meilleure nature.
Non, mais ça, c'est... Pour moi, c'est... Enfin, j'ai discuté avec le directeur du muséum naturel, il sera bien que moi, il vous dira, mais ça, ce que vous êtes en train de dire jusque-là, ça, c'est du pur créationnisme. Il dira, ça, c'est des gens qui n'ont pas compris que la nature, c'est le changement.
Ça... Allez, il nous reste une minute.
Alors. Et alors, la dernière question par rapport à la sensibilité sociale. Alors, je connais moins le cas des parcs en France, mais en fait, il y en a eu 14, mais il y a eu énormément d'autres projets qui n'ont pas abouti. Hein. Donc, avec cette création, il y avait plein de territoires qui étaient intéressés. Donc, pour 14 qui ont été créés, il y en a tout plein qui n'ont pas été créés. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, il y a un processus de participation qui est assez important, en fait, hein, mis en place entre les communes et la population locale pour favoriser l'acceptation de ce type-là de projet, qui ne va pas sans heurts, mais qui, dans les différents, par rapport aux autres catégories, est beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
Oui, il y a par exemple celui que tu dois très bien connaître, du Jora, puisque c'est un parc périurbain en formation. Donc là, justement, j'ai un étudiant qui travaille là-dessus. Il disait que dans la zone centrale, pour préserver le caractère naturel intouché, on va interdire les animaux.
Ouais.
Et oui.
On va interdire les chiens.
Ouais. Les animaux domestiqués.
Les animaux. Et peut-être juste par rapport à. Oui, en France, j'ai une étudiante qui travaille dessus parce que c'est tout à fait intéressant de voir que.
La cathédrale, les cantonnements, elles sont complètement fermées. Après, on va dire que c'est une expérience de laboratoire
assez
ouverte. Et d'ailleurs, on se retrouve éventuellement avec des écosystèmes très surprenants.
Très surprenants.
Les primorisés dans le nord de la France, là, qui pullulent sur des parcelles, on ne sait pas encore pourquoi. On se dit que c'est un stade vert.
La ligne de démarcation entre les deux Corées est fascinante de ce point de vue-là.
Une expérience, c'est autre chose.
Parce que personne n'a le droit d'y aller. C'est une vraie zone centrale, en fait, du parc naturel. La DMZ.
Ah oui.
À la frontière entre les deux Corées.
Pour le...
30 secondes.
Oui.
Non, mais par exemple, l'écologie urbaine est née à Berlin, en particulier parce que, à cause des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, puis du mur, qui a laissé des zones totalement vides, en fait, en friche, et voilà. Bon. Mais je voulais répondre quand même à monsieur, pour finir, oui, ce qui est intéressant en France, c'est que, donc, il y a eu ce débat au Sénat, et à la suite de ça, des collectivités locales ont créé des parcs naturels urbains, en l'absence de label, c'est-à-dire que la catégorie juridique n'existe pas, mais elles ont jugé utile d'utiliser cette appellation-là. Et j'en suis là, parce que les étudiants qui bossent là-dessus, on étudie le parc naturel de Strasbourg, celui au Pays Basque là, a été aussi étudié, et c'est passionnant d'essayer de comprendre pourquoi en fait ils utilisent ce label, en quoi ça leur est utile finalement, alors même que voilà...